L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Manéléo, c'est l'heure du journal.
Sans plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. Sans la rigueur du médiateur, le processus de Doha risque de s'éterniser au péril de populations qui vivent dans les zones affectées par les conflits. C'est ce que pense Jean Moreau, tout bibou défenseur des droits humains, qui invite le médiateur à changer d'approche en insistant sur les suivis des engagements avant d'entamer un nouveau round de discussion. Et 42 000 dessins nonandais candidats répartis dans 115 centres sont attendus pour les épreuves hors session de l'examen d'état de la province éducationnelle Sud-Kivu 1 qui débute le lundi 4 mai prochain. Le mail contenant les questionnaires arrive à Bukavu jeudi 30 avril, précise l'inspecteur principal provincial qui appelle le finaliste à avoir confiance en eux. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Meria Babofano, c'est mon nom. Je suis à la présentation. Jean-Claude Dagué assure la mise en onde. En début de cette édition du journal, disons que plusieurs villages du groupement des Kagabi dans le territoire des Kabare restaient confrontés à plusieurs formes d'insécurité, caractérisées notamment par des attaques d'hommes munis d'armes à feu et armes blanches et des cas de braquage. Dans une alerte parvenue à Radio Maindélo, la société civile locale fait état de la présence d'hommes armés qui opèrent depuis dimanche dernier dans les heures vespérales. Détail à l'Ankabika.
Déjà dans la soirée des mardis 28 avril aux environs des 20h, c'est le village Tchidjo qui a été la cible, explique Moïse Biringanine, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile dans les groupements des Kagabi. Ici, ces bandits ont pillé dans plusieurs boutiques et maisons appartenant aux paisibles populations, avant de blesser d'autres par armes. La société civile parle de plus de 4 jeunes grièvement blessés dans cette opération. Malgré les alertes, la situation restait volatile et les habitants plongés dans la terreur face à l'absence de tout intervention des services de sécurité. Les coordonnateurs du cadre de concertation de la société civile dans les groupements des Kagabi plaident pour plus de sécurité et invitent la population à demeurer vigilante. Moïse Biringanine en parle.
Ces gens en tenue militaire ont commencé à braquer les clients ravissant téléphone, argent et autres biens de valeur. Les responsables ont été tabassés et blessés qui suivent des soins dans des structures sanitaires du milieu. Face à cette montée de l'insécurité à Kagabi, le bureau du cadre de concertation de la société civile demande à l'administrateur du territoire de Kabare de tenir dans l'urgence une réunion de sécurité à Kagabi, laquelle réunira les confessions religieuses, les chefs locaux ainsi que les acteurs sociaux du milieu pour étudier les stratégies qui pourraient aboutir à de bons résultats. Nous demandons à la population d'être vigilante, demeurer collaboratrice avec les services de sécurité mis en place pour regarder dans quelle mesure nous devons juguler cette insécurité.
Toujours sur les plans sécuritaires, d'autres défenseurs des droits humains dénoncent les comportements des agents de l'ordre affectés à la sécurité des installations de la régie des eaux à Murundu, tout comme vers Mazigiro, toujours en territoire des Kabare. Ces agents seraient la source d'insécurité à travers notamment l'obligation faite à tout passager à pied ou à moto de payer une somme d'argent, en plus des cas d'intimidation, d'arrestation arbitraire et des mauvais traitements à l'endroit des populations locales. Les défenseurs des droits humains dans la zone rappellent que la collaboration entre ces agents et la population est d'une importance capitale pour renforcer la sécurité dans la zone, d'où l'appel à plus de professionnalisme.
Merci Alain Kabika et avec vous Hélène Boudjiriri, disons que des enjeux militaires non explosés constituent un danger permanent dans différentes zones où se sont déroulés les affrontements entre les troupes de la SAM-23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo. Malgré les alertes des acteurs de la société civile et de médias, aucune initiative pour le mettre hors de la portée des civils afin de les protéger n'est prise.
Dans la plaine de la Ruzizi et dans d'autres territoires où les affrontements ont été rudes, comme Kalehe, Kabare et Walungu, les leaders locaux et défenseurs des droits humains indiquent que c'est presque tous les jours que les engins non explosés et ou explosés sont découverts. Plusieurs agriculteurs ont même des difficultés à aller dans leurs champs après avoir découvert qu'il y avait des objets inconnus, mais qui auraient des indices militaires, indiquent certains d'entre eux contactés par la rédaction des radios Maindéléo. Ces engins constituent un danger permanent, surtout pour ceux qui tentent de les manipuler. C'est par exemple dans les groupements de Bougoré où des enfants ont été grièvement blessés à un autre mort, alors qu'ils manipulaient un engin croyant qu'ils avaient découvert des restes de métaux communément appelés Mab. Bende. Pour la société civile, forcée vive du territoire des Kabarés, il est important que les autorités fassent de leur mieux pour épargner la population des dangers que peuvent provoquer les engins non explosés abandonnés ci et là. Son rapporteur, Barthélémy Mwamboussa, appelle également les parents à la vigilance dans la garde des enfants et à signaler toute présence d'un objet suspect au lieu de se mettre à la manipuler. Barthélémy Mwamboussa en parle.
Nous demandons à notre chère population d'être vigilante et prudente parce que l'entité a été touchée par la guerre et de ces faits, il y a des engins explosifs qui seraient en cours de route et dans des champs et qui peuvent faire des dégâts humains aux parents. D'éduquer les enfants et de les instruire à ne pas toucher les objets inconnus. Également, nous demandons aux enseignants et aux leaders religieux, ceux qui gèrent les enfants ou même des personnes adultes, de demander à toute personne de ne pas toucher un objet inconnu au risque de perdre la vie. Aux autorités de pouvoir sécuriser la population et leur bien.
Il appelle par ailleurs les leaders communautaires à poursuivre la sensibilisation des communautés sur des attitudes positives à adopter dans un contexte de conflits et crises sécuritaires afin de protéger la vie des plus faibles à l'instar des enfants et des vieillards.
Et comme annoncé au sommaire, le médiateur dans le processus de paix des Doha doit jouer un rôle essentiel pour amener les deux parties à respecter leur engagement. Sans la rigueur du médiateur ou du modérateur, le processus des Doha risque de s'éterniser au péril des populations qui vivent dans des zones affectées par les conflits. C'est ce que pense Jean Moreau, tout bibou acteur de la société civile du Sud Kivu et défenseur de droits humains, en réaction au retard dans la mise en œuvre de derniers engagements signés en Suisse. Détail, Expédé Kialo.
Selon lui, le médiateur doit changer d'approche en insistant sur le suivi des engagements avant d'entamer un nouveau round de discussions. Jean Moreau Toubibou invite aussi les Congolais à faire pression au gouvernement pour un aboutissement de ce processus de paix qui met sur la même table le gouvernement de la RDC et la FCM23.
Il faut que la population fasse une pression pour demander la protection. Deuxième, faire une pression sur la MONUSCO, que la zone tampon soit très vite établie pour que les aides humanitaires parviennent réellement à la population. Troisième chose, c'est de sécuriser, c'est de reconstruire les infrastructures pour que les écoles fonctionnent. La recommandation qui doit être faite du côté de la modération ou de la facilitation, qui est un facilitateur fort, bien robuste, une modération robuste qui exige que, qu'il y ait d'abord des résultats pour les premières suggestions, les premières recommandations sur les premiers accords faits, qui est concrétisation avant de passer sur la seconde étape ou les second round des négociations, mais qui est d'abord une concrétisation visible, efficace.
Pour rappel, après le dernier round des discussions menées à Montreux en Suisse, il était prévu dans un délai d'une semaine les opérations conjointes de vérification du cessez-le-feu. Il a été annoncé aussi la libération des prisonniers après 10 jours à dater du 17 avril, date de la clôture des échanges. Les deux délais sont dépassés, mais aucune des deux activités n'a été réalisée. Du côté de l'AFSAM 23, l'on accuse le régime de Kinshasa de ne pas respecter son engagement, ce qui traduit une duplicité politique et un double jeu. Dans une communication faite mardi 29 avril, Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFSAM 23, annonce que son camp poursuit sans relâche le processus de remise des prisonniers au CICR qui a reçu le mandat de procéder à l'échange de ceux détenus par les deux parties. Il a alors indiqué qu'à ce stade, aucun prisonnier détenu par le gouvernement de la RDC n'a été libéré, précisant que le gouvernement de la RDC n'a pas encore communiqué à ce sujet.
Merci Expédé Kialo. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal. Aussi Radio Maïdéléo, merci de nous rester fidèles.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre dans cette édition du journal et parlons éducation. Environ encore en 2,792 candidats répartis dans 115 centres sont attendus pour la passation de l'épreuve hors session de l'examen d'État de la province éducationnelle Sud Kivu en édition 2026 du Debit le lundi 4 mai prochain. Cette précision a été donnée par l'inspecteur principal provincial Jean-Marie Moyessi au cours d'une interview accordée à Radio Maïdéléo mercredi 29 avril 2026. Détail, Omar Boudekereza.
Selon lui, Comme l'année passée, le gouvernement central prendra en charge tous les frais liés à l'organisation de ces épreuves. Il invite ainsi les parents à ne verser aucun frais de participation, ceci étant déjà couvert par l'État. S'agissant de la logistique, Jean-Marie Moyessi indique que les malles contenant les questionnaires vont arriver à Bukavu ce jeudi 30 avril 2026. Elles seront ensuite acheminées directement vers les centres de passation situés à l'intérieur de la province. Concernant le calendrier, le préf de dissertation ouvrira la session le lundi 4 mai 2026. Elle sera suivie le mardi 5 mai par les débuts des épreuves traditionnelles réservées uniquement aux options techniques. Les épreuves orales des français et d'anglais se tiendront du mercredi 6 au samedi 9 mai 2026. Quant aux épreuves pratiques professionnelles, elles se dérouleront du lundi 11 au lundi 18 mai 2026. Jean-Marie Moyessi.
Les mâles sont encore entre les mains de partenaires UNICEF qui les achemine. Aussitôt arrivés, les centres les plus éloignés, nous allons commencer à les servir. Mais plus tard vendredi, les centres de l'intérêt pourront être servis. Mais une particularité, ce sont les partenaires qui vont nous aider à accompagner ces mâles jusque dans les lieux d'entreposage. Donc, pour l'arrière-province, l'UNICEF avec les autres partenaires éducatifs se sont organisés à nous aider dans les transports de ces mâles. Et c'est seulement dans le point de chute qu'ils pourront déposer ces mâles. Je venais de le dire, c'est 115 centres d'examen.
Et l'effectif total des candidats attendu?
42 292 candidats.
Par ailleurs, l'inspecteur principal provincial, Jean-Marie Moyessi, appelle les finalistes à avoir confiance en eux, à bien réviser leurs notes et à se préparer sur pour affronter ces examens. Il exhorte également les inspecteurs au professionnalisme et à la rigueur, soulignant qu'aucun candidat ne doit être privilégié au détriment de l'autre.
Merci Omar Moudekereza. Et en parlant santé dans cette édition du journal, disons que les cas de rougeole ne cessent d'accroître dans la ville de Bukavu, avec une particularité sur la zone de santé des Kadutu qui enregistre plus de cas actuellement. La dynamique d'acteurs pour les questions de la patrie qui alerte fait savoir que les enfants sont les plus touchés par cette maladie. Selon ces structures, les aires de santé de la commune de Kadutu enregistre en moyenne 10 cas de rougeole par semaine chez les enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 5 ans. Ces structures citent notamment les aires de santé des Nyamulagira, Buolode, Founou et SOS, ayant même enregistré des cas de décès la semaine dernière. Au terme de recherches réalisées, la dynamique d'acteurs pour les questions de la patrie cite plusieurs facteurs comme étant la base de la propagation de cette maladie. C'est notamment le faible recours aux structures de santé à cas de maladie, l'absence des ripostes coordonnées et l'insuffisance des ressources médicales dans les structures sanitaires pour une prise en charge efficace. Le secrétaire général de ces structures, Patrick Mongwa-Konkwa, en parle dans cet élément.
Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs aires de santé qui sont en train d'enregistrer au moins plus de 10 cas par semaine. Et cela, nous sommes en train de voir que c'est vraiment une contamination plus inquiétante qui risque de devenir une crise sanitaire grave dans la ville de Bukavu. Et cela se justifie par le fait que plusieurs parents n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir amener les enfants peut-être dans les structures sanitaires pour être soignés. Il y a également le problème de prise en charge. Il n'y a pas vraiment des intrants médicaux qui peuvent aider les personnels soignants. Nous sommes en train de craindre que cela, la contamination soit beaucoup plus exagérée, vu que plusieurs parents préfèrent soigner les enfants à la maison avec des pratiques aussi anciennes et erronées qui peuvent également causer cette contamination à grande échelle.
Il demande aux parents de rester vigilants face aux signes de la maladie et de se rendre le plus vite que possible dans des structures proches en cas de symptômes. Cette dynamique plaide également pour une mobilisation des acteurs œuvrant dans les secteurs afin de stopper la chaîne des contaminations et ainsi maîtriser cette maladie. Et dans la commune de Bagira, la nouvelle dynamique de la société civile de Bagira alerte sur la présence d'une maladie qui se manifeste par des signes semblables à la rougeole dans plusieurs avenues, notamment dans la partie Kacha. Cette maladie a déjà occasionné les décès de plusieurs enfants dont l'âge varie entre 0 et 10 ans dans la zone de santé des Bagira, indique ces structures citoyennes. Malgré les alertes et rapports des organisations de la société civile, la riposte tarde à être organisée par les autorités sanitaires de la zone de santé des Bagira, déplore la NDC qui fait état d'une allure inquiétante dans la propagation. Parmi les entités les plus touchées figurent Mulambula, Chikoni, Chiriri et Chikera. En l'absence d'un programme approprié de prise en charge, plusieurs parents font déjà recours à l'automédication, avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence sur la santé de leurs enfants. Le secrétaire rapporteur de la NDC Bagira, Chamikolo Kitombi-Libertan, en parle dans cet élément.
Depuis plusieurs semaines, nous enregistrons des décès multiples d'enfants âgés de 0 à 10 ans. Les enfants présentent de fortes fièvres et des maux de gorge, puis des décès en 2 à 4 ou 5 jours sans diagnostic clair. Faute de moyens ou d'informations, certaines familles recourent à l'automédication pour faire sortir la rougeole ou à des structures sanitaires non viables. Nous demandons en urgence la convocation d'une réunion extraordinaire avec tous les responsables de structures sanitaires privées comme publiques. Le respect strict de la notification immédiate des cas suspects, l'harmonisation du protocole de prise en charge et la mise en place d'un système de remontée quotidienne des données sanitaires avec les relais communautaires.
Contacter des sources proches de la zone de santé et des Bagheera se sont réservés de tout commentaire. Néanmoins, d'autres confirment la présence de cette maladie avec des cas de décès, mais disent attendre les instructions hiérarchiques car, indique-t-elle, rien ne peut être fait en dehors des dites instructions. Et je vous reprends, Alain Kabika, la création d'une académie de jeunes bâtisseurs de la paix, la formation des enseignants à l'éducation à la paix, ainsi que la mise en œuvre des concours d'innovation pour la paix font partie des principales initiatives innovantes prévues par l'organisation Open Peace DRC. Ceci dans le cadre de son projet intitulé « Jeunes engagés pour la paix, la cohésion sociale et la résilience dans la ville de Bukavu au sud Kivu ». Ces innovations ont été dévoilées lors du lancement officiel du dit projet mercredi 29 avril 2026 à l'hôtel résidence dans la ville de Bukavu.
Pour Claudine Biamungu, coordinatrice des Hope and Peace DRC, ce projet a pour objectif d'amener les jeunes à devenir des acteurs clés de la prévention des conflits et de la promotion de la cohésion sociale. Selon elle, les jeunes constituent la cible principale car l'éducation à la paix doit commencer sur les bancs de l'école dans le but de former une génération consciente, responsable et capable de résoudre pacifiquement les différends au sein de la société. Constituant la majorité de la population, ils sont acteurs du changement, d'où l'importance de les accompagner à transformer leur comportement, à adopter des valeurs de tolérance, de respect mutuel et de vivre ensemble harmonieux. Celle-ci estime en outre que l'implication active des jeunes dans des initiatives locales de paix contribuera à réduire significativement les tensions communautaires et à renforcer la résilience sociale dans la région. Claudine Biamungu.
Pour nous, les jeunes sont des acteurs de changement. Les jeunes sont parmi les acteurs de changement qu'on ne doit pas négliger. Parce que les jeunes sont partout et en tout. Ils sont dans nos familles, ils sont dans nos écoles et ce sont des dirigeants de demain. Et donc, si nous ciblons les jeunes, nous espérons, s'il y a un changement positif, s'il y a un développement personnel positif, une estime de soi positive, nous pensons que cette paix que nous rêvons pourrait arriver dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir, et nous pouvons espérer d'un Congo nouveau. Un Congo où les dirigeants sont en paix avec eux-mêmes d'abord et qui peuvent répandre cette paix à travers la communauté, à travers la ville, à travers les pays. Et donc nous invitons tous les jeunes à participer activement pour le développement de notre pays, le développement personnel, le développement d'estime de soi, pour que nous puissions avoir la paix consolidée à l'intérieur de nous, autour de nous, et que chaque jeune puisse impacter sur son savoir, son talent pour développer cette paix durable et consolider la cohésion sociale.
Signalons que ces projets pilotes ciblent les trois communes de la ville de Bukavu, à savoir Ibanda, Bagheera et Kadutu. Hope and Peace est une organisation féminine engagée dans la promotion des droits humains et l'égalité des genres.
Et amener les leaders communautaires, le membre de confession religieuse et du noyau d'alerte rapide à s'approprier les notions de base sur la prévention de violences basées sur les genres et sur la masculinité positive pour un vrai changement selon des objectifs. Des campagnes de sensibilisation sur la prévention de violences basées sur les genres et la masculinité positive au profit des leaders de Bukavu organisés par la Fondation Panzi. Ceci en vue de pousser les hommes à abandonner les coutumes rétrogrades et stéréotypes qui mettent au dernier plan la femme. Selon Juvenal Zozo du projet Badelika de la Fondation Panzi, la masculinité positive veut que les hommes évitent de discriminer les femmes car celles-ci possèdent des compétences qui pourraient leur être bénéfiques. Juvenal Zozo ajoute que l'implication des hommes dans les travaux ménagers et l'éducation des enfants n'enlève en rien la masculinité des hommes. Juvenal Zozo en parle dans cet élément.
On a réuni les leaders communautaires de la ville de Bukavu aujourd'hui. C'est dans la continuité des campagnes de sensibilisation que nous avons commencé à mener avec eux à travers ce projet depuis l'année 2023. Alors aujourd'hui, on les a réunis pour qu'on puisse échanger avec eux sur la masculinité positive. Précisément, c'est la prévention des violences basées sur les genres et la masculinité positive. Donc la masculinité positive qui est une approche de dialogue communautaire. C'est à partir de cela qu'il y a une masculinité, qui a un changement. Et cela, ça doit commencer dans la famille, entre papa, maman et enfant. Et surtout, cela dépend aussi de l'éducation de base qu'on acquit.
Et dans la foulée, le pasteur Samuel Bachiru Kenge, l'un des participants, félicite la Fondation Panzi pour cette lutte contre les violences basées sur les genres et la masculinité toxique qu'elle mène depuis 2023. Cette formation lui a permis, dit-il, de connaître, culper et aider la femme dans les tâches ménagères et l'éducation de la famille tout en gardant ses responsabilités en tant qu'homme. Il en parle dans cet élément.
Dans la communauté où nous vivons, nous étions des ignorants parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été, que nous avons appris, dont on ne savait pas au départ. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà outillés et nous devenons juste des vrais ambassadeurs de la masculinité positive au niveau de nos églises et au niveau de la communauté que nous sommes d'orienter. Les violences que nous commettons commencent dès nos familles. Maintenant, à travers la formation d'aujourd'hui, nous comprenons que la masculinité positive doit commencer d'abord de nous-mêmes, dans nos familles.
Il invite par ailleurs les hommes à adopter la masculinité positive afin de construire des familles plus solides sans préjugés ni discrimination.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, disons que la Ligue nationale de football a officiellement procédé à un réaménagement du calendrier de la phase retour de la Ligue 2, zone de développement STB, suite au désistement du club Brésil AC. L'annonce a été faite dans un communiqué publié le 28 avril 2026 à Butembo par la commission ad hoc. Détail, Expedi Kialo.
Ce réajustement vise à garantir la continuité du championnat malgré le retrait d'un des clubs engagés, à savoir l'AC Brésil de Goma. Toutes les rencontres se disputeront au stade André Van Nevel de Butembo, unique site retenu pour cette phase. Sur le plan sportif, plusieurs affiches majeures sont au programme, notamment les confrontations impliquant l'OC Mungano, le DC Virunga, l'AS Nyuki ou encore l'AS Kabasha qui devraient peser lourd dans la course au classement final. L'OC Mungano qui représente la province du Sud Kivu joue son prochain match ce jeudi 30 avril avec l'AC Kapako. Le match est prévu à partir des 13h au stade Van Nevel. Les Salalilés devront batailler dur pour renverser Kapako en attendant d'en découdre avec l'AS Kabasha de Goma le dimanche prochain. En sport loisir, des équipements sportifs composés de jets de vareuse et ballons ont été remis aux jeunes de la paroisse de Momocho par le centre de mobilité humaine. Selon José Mungwakonkwa, coordinateur du centre de mobilité humaine, cette initiative vise à mettre en lumière les talents souvent invisibles dans les milieux ruraux. Elle vise aussi à renforcer les liens entre les jeunes et leur communauté dans un contexte où la cohésion sociale reste fragile. José Mungwakonkwa ajoute que cette action vise à encourager les jeunes filles et garçons à exprimer leur potentiel et à se rassembler dans un cadre positif. À la réception de ces équipements, la coordonnatrice des jeunes de la paroisse des Momocho remercie le centre de mobilité humaine d'avoir ciblé les jeunes de son ressort. Anorit Nabintu.
Au nom des jeunes de la paroisse de Momocho, nous disons merci au centre de mobilité humaine et surtout son coordinateur, Maître Josué Mungwakonkwa, pour son sens des sacrifices à l'endroit des jeunes. Nous avons reçu des vareuses et ballons. Au nom des jeunes de la paroisse de Momocho, nous disons merci.
Le centre de mobilité humaine appelle à une mobilisation accrue des partenaires publics et privés pour un appui au sport qui peut être un vecteur d'unité et surtout des jeunes des paroisses en vue de renforcer la cohésion sociale et réduire l'isolement.
La revue de presse. Radio Maïdéléo Capte vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Deux cas de rougeole annonce dans le territoire des Béni à la jusqu'à 60 cas enregistrés par semaine et les frais illégaux percés dans les écoles à Fizi font partie des sujets commentés par la presse au mercredi 24 avril 2026. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
Débutons avec Actualité.cd qui parle d'environ 365 cas de rougeole, dont deux décès enregistrés dans la zone de santé d'Oicha, située dans les territoires des Beni, dans la province du Nord Kivu. La maladie continue d'y être signalée avec plus d'une soixantaine de nouveaux cas notifiés au cours des deux dernières semaines, ajoutent ces médias. Et de poursuivre que selon Koule Kiusa, infirmier superviseur chargé des soins préventifs dans cette zone de santé, la propagation de la rougeole se poursuit. Au cours de la semaine précédente, 37 cas ont été été notifiés contre transit. Autres, durant la semaine suivante, traduisant la persistance de la maladie dans la communauté. Actualité.cd rappelle que lors de la récente campagne de vaccination, 5640 enfants ont été vaccinés dans différentes aires de santé, un effort jugé encore insuffisant pour stopper la propagation de l'épidémie. Des difficultés logistiques, notamment liées à une rupture des vaccins, ont été relevées, affectant la prise en charge de certains enfants non vaccinés lors de cette phase exceptionnelle. Toutefois, 3000 nouvelles doses de vaccins contre la rougeole ont été réceptionnées récemment dans la zone de santé d'Oïcha. Sur un autre sujet, le mouvement citoyen Machozi Araïa, coordination territoriale des FISI, alerte sur une série de pratiques jugées illégales imposées aux élèves finalistes du primaire et aux enseignants de la sous-province éducative FISI 3. Dans une déclaration rendue publique et consultée par stnews.info, cette structure citoyenne dénonce des prélèvements financiers considérés comme abusifs dans un contexte déjà marqué par la précarité du secteur éducatif. Selon ces mouvements, des élèves de 6e année primaire sont contraints de verser 3000 francs congolais au titre des frais de capture des photos numériques. Un montant jugé excessif, d'autant plus que dans les sous-provinces voisines des FISI 1 et 2, ces frais s'élèvent à seulement 1000 francs congolais. Le mouvement souligne également que ces photos sont prises à l'aide d'un simple téléphone Android, ce qui renforce les soupçons d'irrégularité. Par ailleurs, d'autres contributions sont signalées, notamment 20 000 francs congolais exigés par école pour la toiture de la salle des réunions de la sous-province, ainsi que les mêmes montants pour des activités sportives. Des frais que Machozi Araïa estime injustifiés, rappelant que cette entité bénéficie déjà des subventions de fonctionnement. Ces médias rappellent que cette situation, que le mouvement Machozi Araïa juge d'autant plus préoccupante, arrive alors que les enseignants accusent déjà près de 2 mois d'arriéré des salaires.
Ainsi s'achève cette édition du journal, mesdames, messieurs, présentée par Myriam Mofano, Jean-Claude Ndaguia sur la mise en onde. Au revoir et prenez soin de vous.